Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, d'autres idées de l'Europe. Ce soir, notre troisième rencontre avec Corinne Lepage autour d'une idée écologique de l'Europe. L'Europe, ce n'est pas seulement une réalité géographique, ce ne sont pas seulement des institutions dont l'Europe serait le nom, mais l'Europe, c'est une idée ou plusieurs idées, peut-être aussi le risque, la fragilité de certaines idées. Il faut les raviver, il faut les proposer, il faut avancer d'autres idées de l'Europe. Ce soir, nous allons discuter avec Corinne Lepage d'une idée écologique possible ou pas de l'Europe. Bonsoir Corinne Lepage.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être venu discuter ce soir. Vous êtes ancienne députée au Parlement européen, vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, comme on disait lorsque vous avez occupé ce poste. Je suis particulièrement heureux de pouvoir discuter avec vous d'une idée écologique possible de l'Europe. Mais d'abord, voilà, j'ai employé cet adjectif, une idée écologique. Lorsque vous étiez ministre, on parlait d'environnement. Les termes bougent très vite. Tous les termes se succèdent. Aujourd'hui, où tout ce sujet est devenu enfin prioritaire, quel terme est-ce que vous employeriez vous-même ?
Environnement est plus vaste,
d'accord,
qu'écologie, mais plus flou. On a les deux ensemble. C'est-à-dire que l'environnement, c'est effectivement ce qui concerne les éléments naturels. Mais c'est ce qui concerne aussi l'environnement humain, c'est ce qui concerne les rapports entre la nature et l'homme, c'est ce qui concerne presque le rapport à l'autre. L'écologie, au sens étymologique du terme, hein, c'est comme l'économie,
oui.
Ça parle toujours de la maison,
oui.
C'est le discours sur la maison.
Donc c'est aussi un peu à la fois nature et homme.
On retrouve nature et homme, mais je dirais qu'avec une connotation peut-être plus marqué
plus décentré peut-être. L'environnement, oui, ça met l'homme au centre,
oui,
finalement.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Enfin bon, moi j'aurais plutôt tendance à employer le même terme que vous, c'est-à-dire dire Europe écologique plutôt qu'Europe environnementale.
Et les mots comme développement durable,
c'est un oxymore dont j'ai ras-le-bol, pour vous dire les choses, en employant un mot un peu trivial, parce que très franchement ça ne veut rien dire du tout. Ça finit par ne plus vouloir rien dire du tout. Donc, moi, c'est un mot que je n'emploie plus.
Puis, on a l'impression que l'écologie est un adjectif, là, que le développement reste
durable,
la norme.
Ça veut dire quoi ? C'est quoi, développement durable ?
D'accord.
C'est pour dire croissance qui continue. On a besoin d'inventer une autre manière de développer notre activité économique et notre activité tout court. Donc, développement durable, c'est pas tellement maintenant, c'est un terme que j'emploie plus.
Et vous disiez que écologique s'oppose à économique. On a l'impression aussi que le mot écologique a un sens aujourd'hui directement politique, en fait. C'est le nom de certains partis.
Oui, bien sûr.
Quand on est dans l'écologique, c'est qu'on n'est pas dans c'est qu'on est dans une autre conception de l'économique, en tout cas. Et donc, il y a une idée politique. Là, on se rapproche déjà du sujet que je voudrais discuter ce soir. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il peut y avoir une politique européenne en écologie? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des partis écologistes? Est-ce qu'il faut que l'écologie soit politisée?
Vous abordez en même temps
12 sujets, mais on va les déplier.
Je
les mets là, on va les déplier. Prenez celles que vous voulez.
Elles sont différentes des uns des autres. Au départ, l'écologie, c'est une science.
Oui.
C'est une science dure.
C'est vrai, mais les mots bougent.
Alors aujourd'hui, quand on dit écologie, on pense écologiste, on pense parti écologique. Est-ce qu'on a besoin de parti écologique ? Oui, parce que l'expérience prouve, au moins chez nous et dans quelques autres pays, que sans aiguillon écologique politique, on n'avance pas beaucoup. Les pays du nord de l'Europe, qui quand même sont très en avance sur nous, pendant très longtemps, n'ont pas eu de parti vert. Ils n'en avaient franchement pas besoin.
Ils n'en avaient pas besoin, justement, peut-être parce que le problème était déjà dans l'agenda des
Totalement.
Autres partis ou de la
Totalement.
Société en général.
Et l'objectif, ce serait qu'il n'y en ait plus besoin et qu'il n'y ait même plus besoin de parler de l'écologie, c'est-à-dire que le sujet ait pris la place qui doit être la sienne, c'est-à-dire, en fait, je ne dirais pas la première, parce que ce n'est pas une question, ce n'est pas une course d'obstacles. Hein. Enfin, si, c'en est une, mais enfin pas dans ce sens-là. C'est les conditions de maintien de notre vie et de nos activités. C'est ça l'écologie.
Oui, finalement,
aujourd'hui.
Ça c'est très important comme remarque. Corinne Lepage, ça voudrait dire, par exemple, on ne dit pas qu'il y a un parti économique, puisque non. L'économie fait partie du programme de tous les partis. Donc voilà. Le jour où on ne dira plus parti écologiste ou écologique, ça voudra dire que tous les partis, toutes les positions politiques auront quelque chose à dire sur l'écologie.
Même pas, parce que je crois qu'on ne peut pas laisser l'écologie être un chapitre. D'un agenda politique. L'écologie, ça prend pas sa place entre les transports, l'agriculture et la santé.
C'est transversal à tout.
C'est transverse, comme l'économie. Et personnellement, moi, je me bats pour qu'on ne sépare pas les deux. Je pars de l'idée qu'aujourd'hui, il est hors de question de faire de l'économie sans parler d'écologie, et on ne peut pas faire d'écologie sans parler économie. Donc, en réalité, on va vers un monde dans lequel les deux vont être totalement imbriqués, parce que les questions économiques sont des questions écologiques. La question de l'énergie, par exemple, c'est une question qui touche à l'écologie, bien sûr. La question de la biodiversité, ça paraît une question écologique. Mais en vérité, les services qui sont rendus par la nature sont je ne sais combien de fois le PIB mondial. Donc c'est bien l'économie, et quand vous avez plus d'abeilles, que vous n'avez plus de pollinisation...
C'est plus la nature comme partenaire économique,
effectivement. Comment vous faites? Vous êtes obligé d'avoir une pollinisation artificielle qui marche d'ailleurs plus ou moins, et vous payez.
Mais alors, Corinne Lepage, un autre aspect de ce que vous venez de dire, que je trouve très intéressant, c'est de dire si l'écologie est comme l'économie, c'est une dimension finalement de tous les sujets politiques, de tous les sujets vitaux, ça voudrait dire aussi que, comme sur l'économie, on devrait avoir des positions différentes possibles. Politiser l'écologie, ça voudrait aussi dire avoir une écologie, disons, plutôt de ce qu'on appelle généralement la droite, une écologie plutôt de ce qu'on appelle la gauche. Ça voudrait dire que, au fond, politiser l'écologie, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule voie, mais qu'on pourrait avoir différentes positions, pourrait y avoir un débat sur l'écologie. Je m'approche progressivement aussi de la question de l'Europe.
Bien sûr qu'il y a un débat sur l'écologie. Là où j'étais en train de réfléchir en vous écoutant, c'est est-ce qu'il y a un débat sur les prémices ou pas ?
Les prémices
De la question écologique. Autrement dit, est-ce qu'il peut y avoir un débat sur il y a un changement climatique ou il n'y en a pas, il y a une perte de biodiversité ou il n'y en a pas, il y a un problème de santé environnementale ou il n'y en a pas. Moi, je pense que le débat n'est pas vraiment ouvert sur ces sujets-là.
Exactement, c'est ce que vous venez de dire déjà dès le départ. Il n'y a pas non plus de prémisse sur il faut avoir à manger, à boire.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, je pense que le débat, il est plutôt sur les moyens d'y parvenir. Et peut-être avant même sur les moyens, sur le temps. Parce qu'en fait...
Là, c'est déjà un objet de débat pour vous.
La question du temps,
c'est pas dans les prémices obligatoires. Il n'y a pas un arrière-plan du temps qui s'impose à tout le monde.
Oui,
c'est l'objet du choix.
À mon avis, oui, mais dans la vraie vie, non.
Non, d'accord.
À mon avis, oui. Il y a une urgence qui m'apparaît absolument incontournable. Quand vous regardez les positions des uns et des autres, vous voyez bien que sur la question de l'urgence... fin du mois ou fin du temps, il y a bien un débat
oui,
sur
mais
le temps.
Est-ce que ça ne veut pas dire, Corinne Lepage, que la question écologique n'est pas encore devenue, les prémices n'ont pas encore été accordées par tout le monde? Parce que l'urgence fait partie des prémices.
Oui.
Quand ce sera accordé par tout le monde qu'il y a urgence, là, on pourra vraiment discuter des moyens et faire de la politique.
Sans doute. Sans doute, mais vous voyez, cette question de l'urgence et du temps est, à mon avis, une question tout à fait essentielle. Parce que les climato-sceptiques, vous en avez plus des masses. La question de la biodiversité, tout le monde est à peu près d'accord parce qu'il suffit d'aller dans son jardin pour voir qu'on n'a plus de papillons, pas beaucoup d'oiseaux, pas les mêmes insectes et voilà.
Ouais, et sur la pollution, c'est pareil.
Sur la pollution,
personne ne respire plus
personne
très bien.
Personne n'est d'accord pour dire on respire un air génial dans les villes, c'est pas vrai. Bon, donc voilà, là-dessus on est à peu près d'accord. Alors ensuite, là où il y a un débat, c'est quel est le degré d'urgence? Et de combien de temps dispose-t-on?
Oui.
Encore 5 minutes, monsieur le bourreau, ou pas?
Oui, mais ça veut dire, au fond, quand même, qu'on discute encore pour savoir si l'écologie fait partie des prémices, des données de base. Tant qu'on n'a pas réglé cette question de l'urgence, on pourrait ne pas être écologiste ou ne pas intégrer l'écologie dans les questions primaires ou prioritaires. Parce qu'encore une fois, l'économie n'attend pas, vivre n'attend pas. Donc tant que la question de l'urgence sera un objet de débat, l'écologie ne sera pas prioritaire.
Vous avez raison, mais quand on parle de ce sujet-là, de l'urgence, on touche en fait à une question, j'allais dire, métaphysique. Parce que toucher, parler de cette question-là...
Ça ne me fait pas peur du tout, la métaphysique, Corinne Lepage. Au contraire, c'est très, très important d'aller jusque-là.
Je le sais bien. C'est pour ça que je le dis. Et si je n'étais pas sur votre antenne, je le dirais peut-être pas.
Ah si, j'espère. Il faut le dire partout.
C'est une question quasi métaphysique, parce qu'en fait, ça renvoie à la question de l'effondrement. Et ça, c'est une question dont pas beaucoup de gens ont envie de parler, en réalité. Parce que l'effondrement, ça renvoie à la mort, mais pas seulement à la nôtre. C'est à notre mort en tant qu'espèce. Et là, c'est pas du tout le même sujet, parce que la mort individuelle, je dirais que c'est notre lot commun. Et on naît et on meurt. Mmh. Mais avec l'idée qu'on va se perpétuer dans nos enfants, nos petits-enfants, etc. Là, quand on parle de l'effondrement, on parle d'autre chose. Et donc là, on a une difficulté. Et donc, parler de l'urgence, c'est parler du risque d'effondrement. Et on n'a pas envie de parler de ça.
C'est vrai que faire de l'urgence un prémisse et de l'effondrement une évidence, ça change quelque chose de très profond.
Ah, bien sûr.
Et c'est métaphysique, mais en un sens très concret. Moi je pense qu'on peut en parler aussi en termes de philosophie de l'histoire. C'est-à-dire, au fond, c'est la première fois que l'humanité se représente l'avenir, non pas comme une émancipation ou une sorte de progrès, mais d'abord comme une lutte contre la disparition. C'est vrai que... Est-ce que vous pensez que c'est ça, la toile de fond qu'on a du mal à intégrer? C'est pour ça que cette prémisse-là est encore un peu difficile. Il y a une résistance.
Je pense qu'il y a une résistance énorme. Et elle n'est pas seulement politique. Elle est anthropologique. Parce que c'est très, très difficile d'entrer dans cette logique-là, qui est un peu différente de celle de l'horloge du temps. Parce que l'horloge du temps, bon, on est à 2 minutes, ou on est à 5 minutes, ou à la chute du mur de Berlin, c'était magnifique, on était à 9 minutes.
Oui.
Concrètement, ça veut dire quoi pour le commun des mortels? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'on
a deux minutes.
Vous savez ce qu'est l'horloge du temps? C'est-à-dire, c'est le risque d'apocalypse.
Oui.
Voilà. Donc, il y a des scientifiques qui mesurent ça, notamment avec les questions de risque de guerre atomique. Donc, on est là à 2 minutes. On est revenu au plus mauvais temps.
Plus mauvais risque.
Plus mauvais risque, si je puis dire. Mais qui connaît ça? Et puis, on a le sentiment qu'on peut l'arrêter. On a bien été à 9 minutes.
C'est la décision
minutes,
humaine.
Bien...
Ça dépend de la décision humaine encore.
Exactement.
Comme Lepage, oui.
Voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est une question qui est très, très différente.
Alors, ce qui est difficile pour l'Europe, Corinne Lepage en particulier, mais peut-être qu'en réalité, elle pourrait être l'un des outils dont on dispose pour affronter ce problème, c'est que l'Europe s'est quand même présentée en partie pour éviter des catastrophes, mais plutôt des catastrophes politiques, la guerre, les massacres entre les hommes, etc. Mais du côté de la vie, disons, du corps, de la consommation, c'était plutôt, justement, comme vous le disiez, un horizon de prospérité, de progrès. Donc pour l'Europe, il y a à la fois une accoutumance à la catastrophe, elle a déjà eu lieu, comme disent certains psychanalystes, dans certains domaines, mais en même temps, du côté en effet vital, l'Europe a plutôt promis la prospérité, donc c'est peut-être encore plus difficile.
Alors, oui et non. C'est une bonne question, Frédéric Worms, que vous posez là.
C'est vous qui nous avez mis ce recul. Vous avez été députée européenne et ministre, mais je vois que vous situez aussi ça sur le plan de l'histoire, et vous avez bien raison, l'histoire globale, la représentation de l'homme.
Ma réflexion est partie de cette idée qu'on nous a mis dans la tête en nous parlant de la vieille Europe. Moi, c'est un mot qui m'exaspère, là aussi. C'est-à-dire que Le mot vieille Europe. C'est-à-dire que
je trouve ça très...
Je m'énerve sur beaucoup de choses, mais j'aime pas le mot de vieille Europe. Parce que, en réalité, j'ai le sentiment que oui, on est peut-être un vieux continent parce qu'on a une grande histoire derrière nous. Mais enfin, la Chine a une histoire tout à fait comparable et l'Égypte
également. Toute la Terre a le même âge à peu près,
quand
même. Et les humains, en général, ont tous le même âge.
Si vous allez chez les Mayas, vous allez trouver aussi une histoire très ancienne, ou au Pérou, enfin bref. Donc, on n'est pas les seuls. Mais il me semble que, oui, on a une très vieille histoire. On a des réactions qui sont sans doute différentes de celles de pays qui ont constitué leur unité beaucoup plus tard, qui se sont trouvés confrontés à des difficultés d'ordre de développement que nous avons rencontrées il y a très longtemps, dans des formes différentes, mais enfin que nous avons rencontrées.
Oui, donc on a l'impression qu'ils passent par des étapes et que nous, on les a déjà franchies.
Je pense qu'on les a déjà franchies. Alors, plus ou moins, hein. Et puis c'est pas les mêmes, parce que le temps a passé, parce que la mondialisation transforme considérablement le sujet, mais quand même. Et que les questions que nous nous posons, tous les pays vont devoir se les poser. Et donc, on n'est pas si vieux que ça, et que quelque part, on est peut-être en avance.
Ou en retard. Corinne Lepage, vous êtes, en disant que vous êtes en, avance, vous êtes encore assez optimiste.
Non, je veux dire qu'on est en avance, non pas sur les solutions.
D'accord.
Mais sur les problématiques.
D'accord.
Je reprends par exemple la question climatique, c'est quand même le continent européen qui était le premier à porter le sujet. Moi, j'ai négocié pour le protocole de Kyoto en 96. Ça fait 22 ans.
La première prise de conscience était européenne dans le monde sur les sujets écologiques.
C'est nous qui avons porté, c'est nous les Européens qui avons porté le protocole de Kyoto, ça, dont je rappelle...
C'est plutôt un signe que l'Europe a justement une capacité à affronter les problèmes.
Dont je rappelle quand même que les États-Unis ont refusé de le ratifier après l'avoir signé. Ouais. Alors, il y avait que les pays du Nord là-dedans. Que l'Australie s'en est tirée, le Japon à peu près aussi, et le Canada n'a pas fait grand-chose. Donc il restait qui ? L'Europe avec l'Europe. Je charrie, mais à peine.
Et là, il y avait une unité quand même dans les pays européens. L'Europe
alors,
était unie
négocié,
sur cette question.
Oui, on a proposé un chiffre unique. Bon, qu'on a du reste revu, au passage, beaucoup à la baisse, parce que lorsque nous avons négocié au sein des 15, parce qu'à l'époque, on n'était que 15, qu'on a appelé le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau.
Du fardeau.
On était arrivé à moins 15%.
De
baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Kyoto nous a donné un objectif à moins 8, c'est-à-dire la moitié. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que les autres avaient un objectif à rien du tout. Donc les Européens ont dit, attendez, vous êtes gentils, on ne va pas être tous les seuls.
Donc
les seuls,
finalement,
quand même.
On est dans une négociation, on va revenir sur ce que c'est que négocier sur la survie de la planète. Et effectivement, là, les uns arrivent avec un objectif, les autres avec zéro objectif, et on est au milieu.
Aujourd'hui, quand vous regardez la feuille de route 2030, c'est incontestablement la feuille de route européenne qui est la plus en avance, qui est la plus exigeante. Le Parlement européen y a voté il y a quelques jours une baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. C'est colossal. Bon, les autres sont à des années-lumière de cela. Alors, on n'est pas si vieux que ça. Là où on a un problème, c'est que on n'a pas su mettre notre économie et notre stratégie de développement économique en accord.
En phase.
Avec ce que l'on voulait faire sur un plan politique et philosophique.
Alors, pour relier ça, Corinne Lepage, avec ce qu'on disait au début, est-ce que ça veut dire qu'au fond, l'Europe peut se mettre d'accord quand même sur un diagnostic général ? Que là, au fond, on n'est pas dans la métaphysique, mais quand même, on affronte la réalité, mais que quand il s'agit de la politique concrète, des décisions politiques, des conséquences sur l'économie, sur le reste, là, on retrouve les désaccords. Donc, il y a cette tension entre un accord, des sujets sur lesquels il peut y avoir accord, et d'autres où c'est pas facile.
On n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Menant la bataille en tête, si je puis dire, sur ce sujet, on aurait dû être les premiers à mettre notre industrie en ordre de bataille.
Oui.
On ne l'a pas fait.
Et alors pourquoi ? Est-ce qu'à votre avis, ça tient au fait que l'Europe, justement, est multiple et organise parfois l'accord et parfois il y a de la concurrence, il y a de la division, il y a quand même aussi...
Oui, l'Europe est multiple. Les intérêts sur ce sujet-là n'étaient pas les mêmes, indéniablement, sur le plan industriel. La Chine a mis le paquet, notamment en subventionnant alors que le droit communautaire ne permettait pas de le faire, son industrie, à une proportion absolument incroyable.
Pour atteindre des objectifs écologiques.
Ah ben, ils sont devenus les champions du monde dans le domaine des énergies renouvelables.
Donc au fond, l'Europe arrive à définir l'objectif, mais pas à le réaliser. La Chine ne discute pas politiquement de l'objectif parce que ce n'est pas un modèle de démocratie. Mais par contre, quand elle s'y met, elle peut avancer.
Il y a une sorte sur le plan de comment on fait.
C'est très frappant le contraste entre les uns qui discutent des objectifs mais qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les moyens et inversement. Vous pensez que l'Europe a donc plutôt dans sa diversité à la fois une force et une faiblesse et qu'il faudrait arriver à...
Alors on a une force et faiblesse et puis l'Europe... au niveau institutionnel, elle est multiple, parce que vous avez le Parlement européen, qui est le plus progressiste, indubitablement. Vous avez les États, le Conseil, qui a repris beaucoup de pouvoir par rapport à la Commission. Du temps de Jacques Delors, la Commission était beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même le Conseil, c'est-à-dire les États qui font la loi. beaucoup plus que la commission. Enfin, quand je dis fait la loi, c'est une image, puisque vous savez que le Parlement, comme le Conseil, n'ont pas le droit d'initiative en matière législative, c'est seulement la commission.
Donc il y a ces trois acteurs. Quand on dit l'Europe, on ne sait pas bien de qui on parle, mais il y a trois acteurs au moins, les parlements, la commission et le Conseil de l'Europe. Et la complexité, mais peut-être aussi le modèle que pourrait être l'Europe pour le monde, c'est que pour parler de sujets vitaux, encore une fois, là on parle de cette toile de fond que l'urgence devient, pour parler même de sujets vitaux, il faut prendre tout le temps de la négociation, du compromis, de tout ça. Est-ce que ça c'est un handicap ou est-ce que c'est la réalité des humains?
Avant de répondre à votre question, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que l'Europe n'a pas forcément les moyens de sa politique sur un plan économique et financier. Le budget européen est très faible. Mmh. Bon, on râle beaucoup parce que Bruxelles... Enfin, ça ne représente jamais que 1% des budgets des États membres. Donc, c'est quand même pas grand-chose.
On s'imagine que Bruxelles peut tout faire. Ouais, et en fait,
il y a très peu de moyens financiers. Mmh. En réalité, ça fait beaucoup d'argent comme ça. Mais en fait, non, pas tant que ça. On n'arrive pas à mobiliser les sommes que les États-Unis ou la Chine sont capables de mobiliser. On s'est mis des carcans terribles avec un droit de la concurrence qui, à mon avis, est mal utilisé. Parce que certes, l'intérêt du consommateur, c'est très important, mais l'intérêt du citoyen, c'est très important aussi. Et bien souvent, c'est l'intérêt du consommateur qui l'emporte sur l'intérêt du citoyen. Quand je dis l'intérêt du consommateur, ça veut dire payer le prix le plus faible.
À court terme, indépendamment des autres aspects de ce même citoyen, corps, ses poumons...
Et même son développement et ses emplois.
Et ses enfants et son...
Voilà. Voilà,
mais donc... quand vous dites l'Europe, et on va y revenir après le morceau de musique quand même optimiste que vous nous avez proposé, quand vous dites l'Europe est faible, il y a un petit 1% du budget, mais l'Europe c'est aussi tous les Européens, tous les pays. Si on prend la puissance européenne...
Ah mais bien sûr, mais on ne sait pas l'utiliser.
Voilà, mais
on ne sait pas l'utiliser.
L'Europe c'est aussi un continent économiquement très puissant.
On est le premier marché du monde en termes de solvabilité, il n'y a même pas photo là-dessus. Mmh. Sauf qu'on ne sait pas l'utiliser. Et on ne sait pas mobiliser notre population en faveur des idéaux qui sont les nôtres.
Alors, comment mettre d'accord la politique européenne qui arrive à définir des objectifs et les citoyens et les pays européens en faveur de ces objectifs très vitaux, très concrets? C'est ce qu'on va discuter après avoir entendu un morceau de musique qui, j'espère, n'est pas utopique, mais nous amènera vers la manière de le réaliser concrètement.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre troisième rencontre autour d'autres idées de l'Europe, ce soir autour d'une idée possiblement écologique de l'Europe, voire une idée européenne de l'écologie, dont je suis très heureux de parler avec Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement et ancienne députée européenne. Alors Corinne Lepage, pour vous, est-ce que l'Europe, l'écologie, c'est des choses qu'il faut imaginer au sens de John Lennon, ou bien il faut, avec John Lennon, commencer à en faire des réalités
il y a quand même une très belle politique environnementale et écologique européenne.
Elle existe d'après vous.
Ah bah oui, bien sûr.
Elle a des défauts, vous avez ferraillé sur beaucoup de sujets, des OGM jusqu'aux accidents écologiques, etc.
Oui, mais n'empêche qu'on est
arrivé. Vous êtes avocate aussi, donc vous voyez toujours les problèmes, forcément.
Bah oui, moi je vois la pathologie, c'est comme les médecins.
Voilà.
Je vois pas ce qui va bien, mais on a probablement la politique environnementale la plus avancée du monde, sur le papier au moins. Mmh. Bon, il y a quelques pays dans le monde qui font des trucs formidables, je pense au Costa Rica par exemple.
Ah bon, Costa Rica.
Oui, Costa Rica, qui est un pays extrêmement
vert. Inspirons-nous du Costa Rica.
Et qui a fait tout son projet de politique économique sur la nature.
C'est... Et qui, du coup, en a fait un facteur
de
croissance,
en tout cas, pas de
croissance au sens économique, mais
de développement, incontestablement. Mais bon, ceci mis à part, vous prenez ensuite les grands pays, l'Europe est incontestablement, j'allais dire, très en avance et très ambitieuse sur ses objectifs, alors que ça ne suffise pas par rapport aux enjeux, oui, c'est sûr. Mais enfin, c'est quand même nous qui poussons.
Mais alors justement, essayons de comprendre pourquoi, Corinne Lepage, il y a un point qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que on considère parfois que pour arriver à l'écologie, il faudrait des mesures drastiques, peut-être aussi suspendre la démocratie, des mesures d'autorité, que les négociations internationales, la COP21, ça complique la vie, des objectifs ridicules, des chiffres, etc. Le modèle européen, je dis exprès modèle, peut-être vous allez me contredire, Corinne Lepage, mais c'est plutôt, assumons que la démocratie est compliquée, qu'il faut arriver à des compromis, fixons des objectifs, mais les moyens peuvent être compliqués, et finalement, ça peut être comme ça que ça marche. L'écologie se fait quand même entre les humains, de façon politique, compliquée.
Oui. Alors, deux choses. C'est vrai qu'en Europe, moi j'ai beaucoup apprécié la culture du compromis au sein du Parlement européen.
Voilà, on critique beaucoup le compromis.
Oui, mais n'empêche que il faut comprendre que ça marche pas du tout comme en France, parce que vous n'avez pas de majorité absolue, donc tout est discuté. Et au sein des groupes politiques,
on ne sait pas quelle majorité va se dégager sur tel ou tel sujet a priori.
Sur plein de sujets, on ne sait pas.
C'est pas figé.
Non. C'est pas figé et donc on peut avoir des surprises parce que on peut aller chercher. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant les 5 ans où j'étais au Parlement, où j'avais la chance d'être dans un groupe centriste, donc clé, dans lequel il y avait des gens qui étaient très anti-écolo, mais d'autres qui étaient plus modérés sur le sujet. Et quand j'arrivais à emporter mon groupe,
ça pouvait peser.
J'emportais la majorité. Même s'il y avait des gens qui votaient contre, parce qu'il y a cette liberté de vote quand même qui existe au sein des groupes politiques. Donc vous pouvez ne pas suivre ce qu'a demandé votre groupe politique.
J'imagine qu'il y a des limites à ça sur des sujets.
Sur des sujets majeurs, sur le budget, sur des choses comme ça. Ouais. Mais sur tous les autres sujets, vous votez ce que vous voulez. Donc il faut, vous pouvez obtenir des avancées importantes, il faut aller chercher des compromis. Donc il faut se mettre dans la peau des autres et essayer de négocier. C'est le travail du rapporteur d'un texte. Le rapporteur ne signifiant pas qu'il fait un rapport, mais signifiant qu'il est chargé de trouver les compromis, sur un texte qui est proposé par la Commission.
À partir d'un désaccord initial, c'est ça l'idée du compromis.
Bien entendu, parce que vous avez des gens qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche.
Voilà.
Donc, quand vous êtes rapporteur, vous travaillez avec les rapporteurs de chaque groupe politique et petit à petit, vous essayez de trouver un compromis sur un texte. Ensuite, on va dans les détails, mais sur la physionomie,
une idée de base,
la physionomie générale.
Des lignes rouges communes.
Je trouve que finalement, c'est très intéressant et que c'est une manière très intéressante de progresser. Alors, ça fait des textes parfois un peu alambiqués, un peu compliqués, mais c'est très intéressant.
Pourquoi, Corinne Lepage, d'après vous, est-ce qu'en France en particulier, on caricature le compromis? On pense toujours que le compromis, c'est une compromission. On dit, d'ailleurs, ce jeu de mots est fait très souvent. Pourquoi est-ce qu'on dit, voilà, ça c'est un compromis? Et on, tout aussitôt, on fait une moue et on dit bof. Alors que peut-être, sur des sujets, le désaccord étant la condition de base de la politique, arriver à un compromis, c'est aussi la définition de la paix.
C'est
la définition
de la paix. C'est ce qui permet d'avancer. Si vous n'êtes pas dans le compromis, je dis pas dans la compromission, c'est
voilà,
pas
justement
du tout la même chose.
Non, mais justement.
Et si vous n'êtes pas dans le compromis, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. En tout cas, sauf si vous avez une majorité absolue. À ce moment-là, c'est un groupe qui impose sa loi à l'autre. Et à un moment donné du temps, ça se passe plus très très bien. On en a quelques exemples. Donc, la culture du compromis, c'est très important. Alors, votre deuxième question, c'est est-ce que cette culture du compromis est applicable à la chose écologique ?
Ah, c'est vraiment la question clé du moment en Europe et dans le monde.
Je suis très frappée de voir que très souvent, vos confrères aujourd'hui m'interrogent sur ce point. Est-ce qu'à votre avis, la démocratie est remise en cause par la question écologique. Est-ce qu'il faut... Alors, il y a certains jeunes philosophes ou scientifiques qui sont dans cette voie-là, en disant, finalement, ça n'a rien de liberticide d'interdire aux gens de prendre l'avion plus d'une fois par an, parce que c'est beaucoup plus liberticide que d'imaginer qu'on ne pourra plus bouger du tout parce que...
Et encore, là, il s'agit d'une mesure ponctuelle de la liberté de mouvement. Oui, mais parfois, c'est la suspension de la démocratie elle-même qui est évoquée. Ce n'est pas seulement telle ou telle mesure, c'est parfois la critique du régime démocratique.
Frédéric Worms, c'est une vieille histoire. Quand vous relisez Ancionas,
exactement,
des années 80, quand même. Hein, le principe responsabilité, c'est 82 ou
80. 79, je crois, en allemand, mais ça a mis très longtemps à être traduit en français, d'ailleurs.
Dans le début des années 80. Voilà. Moi, je l'ai lu au début des années 80.
Ah bah, vous lisiez l'allemand, alors, parce que ça a mis 15 ans à être traduit, enfin, 10 ans à être... Peut-être un peu moins, je caricature.
Au milieu des... Je dirais 84-85 en France. J'ai fait de l'allemand, mais je suis incapable de lire Ancionas dans le texte, soyons tout à fait honnêtes. C'est la question qu'il posait, lui. Il disait qu'on n'y arriverait pas sans passer par un gouvernement autoritaire. Alors, j'espère que...
Et au nom de cette révolution anthropologique dont vous parliez, puisque Hans Jonas, justement, disait, voilà, renonçons à l'utopie de la politique. Maintenant, l'urgence, c'est de survivre. Et donc, c'est au nom d'une vraie révolution de notre histoire.
Alors, ceci étant, on peut se poser des questions. Regardez, l'acceptation que nous avons eue de toute une série de mesures qu'on aurait jugées, il y a 40 ans, totalement liberticides. Je pense que les lois perfides à côté de ce qu'on a aujourd'hui, c'est de la roupie de Sansonnet, qu'on a accepté. Pourquoi ? À cause du terrorisme.
Oui, donc là, vous pensez sur les libertés publiques classiques. On accepte des choses au nom de l'urgence.
Les caméras de surveillance partout, etc. Imaginez qu'on ait pensé ça il y a 30 ans ou 35 ans, mais trois quarts des Français auraient été dans la rue en disant « vous n'y pensez pas, c'est impossible ».
Oui, mais Corinne Lepage, si c'est toujours au nom de l'urgence, s'il faut restreindre les libertés, c'est quand même une idée négative de l'écologie. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en faire une idée plus positive au nom de ce que vous disiez du compromis ? C'est-à-dire il y a des urgences vitales, ça définit un objectif politique, mais après, on va justement pas seulement imposer des contraintes, on va aussi discuter librement et peut-être même faire des progrès dans la démocratie. Oui. Pas seulement régressivement, mais progressivement.
J'entends bien. Seulement, le problème, c'est que l'éventail des solutions, il est quand même pas très étendu. Comment vous pouvez faire pour pousser les gens à aller plutôt dans une autre direction ?
Oui, les choix sont quand même...
Bon, la première chose que vous pouvez le faire par le prix. Ça s'appelle l'internalisation des coûts. Mmh. OK, c'est une sélection par l'argent. Vous allez dire, manger de la viande, ça coûte une fortune à la collectivité, prendre l'avion aussi, donc maintenant, si vous voulez faire du tourisme de masse, c'est terminé. Mm-hmm. Pour aller à New York, vous allez payer le prix réel de ce que ça coûte. Je lisais ce week-end, dans un papier qui est paru dans le New York Times, qui est terrifiant, complètement terrifiant d'ailleurs, qu'un aller Paris-New York, c'était 3 mètres carrés de banquise.
Un aller d'avion entier, pas de chaque passager.
Si,
Chaque passager. C'est-à-dire que l'avion lui-même, avec ses 500 passagers,
c'est multiplié par 500.
Ah d'accord, donc chaque avion diminue la banquise.
C'est 3 mètres carrés de banquise par tête de pipe. Donc vous imaginez ce que ça représente. Bon. Donc on peut avoir une sélection par l'argent, et c'est la taxe carbone.
Bon. On guide les comportements comme ça, on empêche les gens aussi de... Enfin, on essaye de les empêcher de fumer trop en augmentant le prix des cigarettes.
Oui, mais là je dirais c'est vrai, vous avez raison.
Finalement, on ne dit pas c'est pour votre bien, mais il y a aussi quelque chose dans la procédure qui est très important. Si c'est imposé par une dictature, je reviens sur ma question du régime politique.
Oui, j'entends.
Pas seulement du contenu de la mesure qui peut être contraignant, mais de la manière dont on y arrive.
Je suis d'accord avec vous là-dessus.
Les ceintures de sécurité, là aussi, les gens admettent progressivement, mais ça dépend comment c'est décidé. Ce sentiment que ça peut être imposé et qu'il y a ce fantasme aussi de Bruxelles qui imposerait des normes, est-ce qu'il faut, si on le transformait en pratique politique du compromis avec chacun, est-ce qu'on ne pourrait pas y voir un progrès de la discussion entre les...
D'abord, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est qu'au niveau communautaire, c'est vrai que vous avez des normes, mais elles sont généralement dans ce qu'on appelle des directives. Et les directives laissent la totale liberté aux États membres de parvenir comme ils le veulent à l'objectif.
Et donc, c'est pas très contraignant. Ni...
Bah, si, vous avez un objectif.
Oui, l'objectif, mais...
Mais ensuite, faites ce que vous voulez pour y arriver. Tout ce
mais
qu'on
quelqu'un
vous demande,
contrôle,
c'est d'y arriver.
Il y a des sanctions, comme on dit.
Ah ben, oui. Voilà. Quand vous y êtes pas, vous allez vous expliquer
d'accord.
devant la Cour de justice. Mais ça met 10 ans, quand oui. même, hein, pour arriver jusque-là. Donc, moi, je trouve que ce système comme mode de gouvernement, pas seulement au niveau communautaire, de manière plus large, de dire aux gens, voilà l'objectif.
Oui.
Et vous avez la liberté d'y parvenir comme vous voulez. Voilà. Par exemple, on pourrait
dire... Oui, ça,
dire,
c'est justement, c'est un compromis,
on
typiquement.
On a un objectif de, je ne sais pas, moi, de réduire...
Prenons celui de la COP, celui qui est dans tous les esprits en France. Il y en a un qui s'est gravé dans tous les cerveaux, c'est le 2%.
Oui.
Alors prenons-le au niveau mondial.
Et alors le 2%, on en est très loin. Vous savez quand même que les accords de Paris nous amènent à 3,2 ou 3.
Hein. Oui, mais prenons-le par convention. Disons, voilà, pour illustrer votre raisonnement. Donc,
bon, ben, mettons, ça voudrait dire qu'il faut
2%
que nous baissons,
et après on dit à chaque pays, faites comme vous voulez.
Non, parce que chaque pays va devoir avoir un objectif qui est compatible avec le 2%.
C'est ça, c'est plutôt
ça. Mais ensuite, pour arriver voilà. à l'objectif que vous vous êtes donné, par exemple, nous, de baisser... l'objectif européen, c'est de baisser globalement de 20%. Entre 1990 et 2020, c'était le premier objectif, nos émissions de gaz à effet de serre. C'était le 3 fois 20. Moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre, plus 20% d'efficacité énergétique et 20% d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique. C'était le 3 fois 20.
Bon, alors, j'ose pas vous demander où on en est, mais...
Bah écoutez, sur les énergies renouvelables, on n'y est pas. D'autant plus que nous, c'était 23 et pas 20. Sur les émissions de gaz à effet de serre, on ne doit pas être très loin. Et sur l'efficacité énergétique, on n'y est pas non plus.
Bon.
Je ne sais pas combien on est, on doit être à 16.
En tout cas, l'objectif a marché comme orientation.
Voilà. Et ensuite, vous avez les moyens que vous voulez pour y parvenir. Donc ensuite, vous pouvez descendre dans les hiérarchies jusqu'à arriver aux individus. Alors on pourrait dire, ben voilà, chaque Français, il doit... sa voiture ne doit pas consommer plus de, disons, 2 grammes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, X grammes de CO2 par kilomètre. Donc, ouais. Si c'est plus, vous allez payer. Seulement, vous allez vous retrouver avec le problème
social. Le problème qui a donné naissance aux gilets
voilà.
jaunes en France
donc, ce
récemment.
Qui veut dire que, et c'est là où je rejoins votre idée du compromis, que vous ne pouvez pas avoir une politique écologique en silo.
C'est ça.
Vous ne pouvez avoir qu'une politique qui est... écologique, économique et sociale en même temps. Sinon,
là,
c'est impossible.
Et là, le passage à l'échelle européenne, pour vous, Corinne Lepage, il devrait aider chaque pays, finalement, parce que pour remplir ses objectifs, si les autres le font aussi, si on définit aussi des moyens communs... S'il y a des moyens communs qui sont apportés par Bruxelles...
Il y a quand même beaucoup d'argent.
Voilà.
Le plan Juncker a quand même donné beaucoup d'argent pour aller dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique. Nous, on n'a pas forcément profité autant qu'on aurait pu de cet argent. Hein. Il faut être très clair là-dessus. On n'est pas très bon, en dehors pour l'agriculture, d'aller chercher les subventions à Bruxelles.
Donc, vous-même, vous pensez finalement que l'Europe... on est dans une année quand même d'élections européennes. L'Europe peut être un recours pour les problèmes écologiques, d'abord des Européens, mais aussi du monde entier. L'Europe qu'on caricature parfois comme un problème.
On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la vieille Europe. Moi, je pense que l'Europe, elle a... parce qu'elle a cette... qu'elle porte cette forme d'humanisme quand même.
Ouais.
L'écologie, ce n'est jamais que la prolongation l'humanisme comme on l'a vu dans la Déclaration des droits de l'homme. Personnellement, je
c'est porte... pas l'opposition de l'humain, évidemment.
Voilà, je porte une Déclaration universelle des droits de l'humanité. Je dis je la porte parce qu'on est plusieurs, bien entendu, et que c'est un texte qui commence à être très adopté au niveau international. Bah, l'idée de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, c'est de dire que c'est le complément nécessaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui se posent à une échelle collective. Et qu'à cette échelle collective, il y a des droits et des devoirs de l'humain à l'égard de l'humanité et vice-versa.
D'accord, donc c'est l'humanité comme ensemble, c'est pas
absolument.
Justement chaque vivant humain, il faut plus mettre le pluriel, on dirait, parce que certains proposent aussi de parler des droits des vivants humains, ou des droits des vivants d'ailleurs, au-delà
si,
même de l'humanité.
Parce que la définition de l'humanité, c'est l'ensemble
des êtres humains.
Des êtres humains et des générations d'êtres humains.
Des générations, c'est compris futur.
Passé, présent, futur. Passé, présent, futur.
Ouais.
Je pense qu'on en est arrivé à ce stade, et l'Europe, elle porte ça précisément. parce qu'elle a cette histoire et cette vocation humaniste universaliste qu'on peut critiquer. Hein. J'entends bien sûr toutes les critiques et
oui, mais
je
si
ne
on
suis
la critique,
pas naïve.
Oui, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que si on critique ça, on perd aussi l'environnement, la vie. Enfin, il ne faut pas les opposer.
Non.
Certes, ceux en tout cas qui critiquent, il y a plein de façons de critiquer les droits de l'homme, y compris le fascisme, mais ceux qui la critiquent au nom de l'écologie... Pour vous, ils se trompent fondamentalement.
Ah, mais je pense qu'on ne peut pas opposer l'un à l'autre.
Au moins que cela, justement, apprenne le compromis, c'est-à-dire la conciliation des objectifs.
Mais je pense que sinon, on n'y arrivera pas, parce que ça va se terminer dans une violence généralisée. Donc, si on veut éviter cela, parce que c'est vrai que la menace d'effondrement, elle nous conduit aussi à cela, le seul moyen, c'est de passer des compromis, comme vous le disiez, mais qui soient des compromis réalistes au regard, et c'est là où la difficulté de l'exercice, réalistes au regard du peu de temps dont nous disposons pour changer de braquet.
Donc il faut être réaliste sur tous les sujets, réaliste sur les contraintes ultimes, réaliste sur l'acceptabilité, réaliste sur les divergences, réaliste sur les moyens.
Mais voyez nos jeunes.
Ils
y arrivent. Ce que demandent les jeunes aujourd'hui.
Mais justement, est-ce qu'ils sont réalistes, les jeunes, Corinne Le Pâtre ? Quand vous les voyez défiler, quand vous nous avez fait entendre John Lennon, ils disaient « imagine ». Est-ce qu'on peut dire à la fois « imagine » et être réaliste ?
Peut-être que
oui,
il faut. On a tous été jeunes.
Oui.
Hein. Moi, j'ai vécu 68, j'avais 18 ans. Voilà, on a tous été jeunes, on a tous porté cet espoir de changer le monde, sauf que là on a une génération
bien sûr l'impossible devenait obligatoire et... l'impossible devenait
oui mais on a une génération qui dit attendez les gars
soyons réalistes demandons l'impossible c'était quand même ça être réaliste
oui mais ce que nous disent nos jeunes et je trouve que la petite Thunberg le dit très bien elle dit ça sert à quoi que j'aille à l'école si j'ai pas d'avenir donc ils sont en train de récupérer cette idée que si quelqu'un est porteur d'avenir, c'est bien les jeunes.
Oui, ce qui est très beau là-dedans, Corinne Lepage, c'est qu'en même temps, on n'est pas là juste à éviter la mort ou la catastrophe. Une fois qu'on a un peu évité la catastrophe, on peut aller à l'école. C'est-à-dire qu'on continue à faire le progrès, à ouvrir la culture humaine.
Exactement.
L'histoire peut reprendre.
Exactement. Je trouve ça plein d'espoir parce qu'on a nos générations passées qui traînent des pieds, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire, voire qui ne veulent rien faire du tout. Et puis ces jeunes qui disent bah, maintenant ça suffit, c'est fini, vous arrêtez, nous on prend le flambeau et on va faire ce qu'il faut pour vivre parce qu'on veut vivre.
Mais encore une fois, ne critiquons pas seulement non pas les générations passées, mais le travail un peu dans la grisaille du compromis. Il faudra à la fois cette exigence inflexible et en même temps, malgré tout, cette culture du politique. On ne peut pas abolir le politique, on ne passe pas par-dessus les divergences entre les humains.
Non, mais je pense qu'on a besoin profondément de changer la gouvernance politique. Et vous parliez de la culture du compromis.
Voilà.
Le compromis, il est aussi entre la société civile et la classe politique.
Et donc, vous pensez que cette conciliation entre l'exigence un peu utopique, mais vitale, et les moyens humains pour y arriver, la politique, tout ça est encore possible ? Vous pensez que c'est l'Europe, les élections européennes peuvent encore nous y mener ? Alors, Malheureusement, on est déjà au terme de la discussion, donc je vous demande déjà votre diagnostic.
Les élections européennes, j'espère qu'elles ne seront pas négatives pour l'Europe. Hein. On n'est pas là pour faire de la politique politicienne, donc j'en dirai pas davantage.
Non, mais c'est métaphysique, la politique, à ce niveau-là. L'Europe a maintenant un enjeu métaphysique.
Mais je pense que l'Europe est une forme de condition de survie pour nos peuples, à nous, pour nos peuples européens. Imaginez qu'on soit tous dans une philosophie brexitienne.
Ouais.
Je ne sais pas très bien ce qu'on devient. Tout part en vrille. Et finalement, ce socle que l'Europe a construit d'exigences sur ces sujets... même si on le réalise moins bien qu'on aurait voulu et tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est absolument fondamental pour le monde.
Merci infiniment, Corinne Lepage.
Merci à vous.
Matière à penser, c'était notre troisième rencontre, une idée écologique et de l'Europe et peut-être aussi une idée européenne de l'écologie avec Corinne Lepage. Avec et grâce aussi à Joséphine Lampreya, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Bonnet, Anne-Pascale Lévin, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain pour notre quatrième rencontre sur l'Europe avec le philosophe belge Philippe Van Parijs. À demain.